Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Marie-Josée Poiré. Elle va nous parler de son expérience très importante, et c'est pour ça qu'on l'a invitée à l'émission, comme aidante naturelle. Mais avant, je vais vous la présenter. Bon, bienvenue Marie-Josée.
Merci. Bonjour Renaud.
Alors, Marie-Josée a des études de premier et second cycle en théologie à l'Université Laval. Elle a complété une licence canonique en théologie à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris en 1996 avec des recherches sur le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Elle a fait aussi son habilitation à ses études doctorales à l'Université Laval et à l'Institut catholique de Paris. De 2007 à 2016, elle a coordonné le parcours de formation liturgique et sacramentelle de la CECC, qui est la Conférence des évêques catholiques du Canada, où elle a accompagné des groupes un peu partout au Canada francophone tout en donnant des cours. Depuis 2016, Marie-Josée Poiré est directrice exécutive du Bureau de coordination des parcours de formation liturgique et sacramentelle. Et depuis l'automne 2020, elle travaille avec l'équipe de l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Chicoutimi, devenu en 2022 le service d'accompagnement et de formation. Depuis 1997, elle est membre du comité d'orientation de la revue Vivre et célébrer, auparavant connue comme liturgie, foi et culture, à laquelle elle collabore régulièrement. Marie-Josée Poiré est professeure associée à l'Université Laval et a été professeure invitée au Newman College, qui est en Alberta, et à l'Institut pastoral de Montréal. De 1997 à 2004, elle a aussi donné des cours à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris. Elle collabore à plusieurs revues, Vivre et célébrer, Liturgie, foi et culture, Célébrer les heures, La maison Dieu, Christus, Lumen Vitae, Cahiers de spiritualité ignatienne, etc. Et depuis quelques années, même plusieurs années, Marie-Josée s'implique bénévolement dans des organismes offrant du soutien aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et à leurs proches. Elle est actuellement présidente du comité de résidents d'un CHSLD, membre du comité milieu de vie et membre d'un comité des usagers. Elle participe régulièrement à des projets du CIUS de Chaudière-Appalaches à titre d'usagère partenaire. Marie-Josée, c'est très impressionnant ce parcours. On sent la femme engagée. On sent la femme engagée avec les personnes. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Marie-Josée Poiré, parlez-nous de votre expérience comme aidante naturelle.
Je dirais que j'ai commencé, comme beaucoup de gens, à être proche aidante avant même de savoir que ça existait. Je pense que c'est la réalité que la plupart des personnes vivent. J'étais, dans les années 80, ma grand-mère maternelle a eu des problèmes importants de santé et à ce moment-là, nous l'avons accueillie à la maison pendant 16 mois alors qu'on était en attente d'une place en hébergement. Donc, ça a été la première expérience de proche aidance que j'ai eue. Dans la vingtaine, c'est quelque chose d'apprendre à changer les couches de sa grand-mère. Oui. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et à la maison, donc vous étiez à la maison, donc il n'y avait pas de service.
Ben, à ce moment-là, il y avait très, très peu de service. Il y avait elle avait eu des problèmes, en fait. À ce moment-là, le diagnostic n'était pas très clair. Elle avait eu des problèmes d'hémorragie cérébrale, des pertes cognitives importantes, pas de pertes physiques, mais c'était impossible qu'elle retourne chez elle. Et donc, nous étions en attente d'hébergement. Elle s'est retrouvée, évidemment, à la maison, 16 mois. D'ailleurs, ça a été très drôle parce que quand la travailleuse sociale est revenue pour faire l'évaluation, parce que j'ai passé un appel de désespéré au CLSC à l'époque, ma mère avait à ce moment-là une jambe dans le plâtre. J'étais revenue à la maison pour aider. Ma mère avait une jambe dans le plâtre. Et au bout d'une demi-heure, la travailleuse sociale et moi, on est sortis sur la galerie et elle a dit, je comprends pas comment vous avez fait pour résister pendant 16 mois. Le lendemain, on avait une place en hébergement. Fait que donc, ça a commencé comme ça et ça n'a plus jamais arrêté depuis 1986. Ça n'a plus jamais arrêté. Parce que il y a eu dans la famille du côté de mon père, nous étions une famille tissée assez serrée. J'ai accompagné en hébergement, dans la maladie, en hébergement mes tantes. portes des membres, des amis, des membres de la famille. Et en 2002, ma mère a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Et elle est restée avec moi pendant 2 ans avant d'aller elle-même en hébergement. Et j'ai jamais plus arrêté depuis. Donc, il y a eu des périodes plus calmes, là, mais depuis 2004, j'ai toujours eu quelqu'un dans mon milieu, dans mon entourage familial, avec qui j'ai joué le rôle de proche aidante.
Marie-Josée Poiré, 1986, on ne connaît rien.
Non.
On ne connaît rien de ce qu'on connaît aujourd'hui, en ce cas, de ce qu'on peut découvrir sur la maladie d'Alzheimer, sur la démence, sur qu'est-ce que ça change chez une personne, son caractère, même sa religion, sa foi. Donc, vous avez tout appris ça vous avez eu comme un 16 mois intensif.
Alors, ça a été une vraie plongée. C'est là que, bon, je veux dire, on entendait parler de la démence un peu, mais la maladie d'Alzheimer commençait à peine à être connue à ce moment-là. On n'avait aucune idée, justement, entre autres, des changements de caractère que ça pouvait provoquer chez une personne. Quand ma mère s'est faite menacer avec un couteau de cuisine par ma grand-mère qui était toute petite et toute douce auparavant, j'avoue que ça a été pour tout le monde dans la famille, il y a un certain choc.
Un très grand choc et, oui. Et il y avait très, très peu d'outils. Comment vous avez, dans cette première période, et on reviendra sur la suite, mais qu'est-ce que vous avez développé comme attitude, comme connaissance au cours de ces premiers 16 mois?
Il n'existait à ce moment-là à peu près aucun outil de support pour les prochains ans comme on peut en trouver aujourd'hui. On avait l'avantage que ma mère était une infirmière, donc de ce point de vue-là, ça allait bien que elle n'avait pas son type de pratique infirmière était plutôt du côté de la chirurgie, donc tout ce qui concernait les maladies cognitives, elle n'avait pas beaucoup d'expérience et elle avait, je dirais, une certaine méfiance. Moi, j'avais eu la chance à la fin de mon adolescence, début de jeune adulte, de travailler pendant 2 ans dans un centre où vivaient des jeunes adultes ou grands adolescents, jeunes adultes qui étaient atteints de déficience. Donc, j'avais une certaine expérience de ce côté-là. Mais c'est une chose de le faire avec des jeunes déficients et avec sa grand-mère à qui on se rend compte là, que ben, on peut pas lui laisser des couteaux, des ustensiles de cuisine. Elle est plus capable de prendre sa douche. Il faut l'aider à manger. Elle peut faire des crises de panique. Je veux dire, tout était à apprendre. Là. Fait que disons que c'est de l'ordre de, à ce moment-là, c'était vraiment le système D. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lecture, il n'existait rien. Là, fait qu'on a appris au fur et à mesure. On avait la chance d'avoir dans l'entourage... ma mère était fille unique. Donc, puis ma grand-mère était veuve depuis que... 3 ans après la naissance de ma mère. Donc, il y avait la famille petite. Là. Et mon père était déjà décédé à ce moment-là. Donc, on n'avait pas le choix. Là, il fallait se débrouiller. Dieu merci, on a eu un peu de relais là, parce qu'on avait une cousine de ma mère dont elle était très proche qui venait nous aider. Mais sinon, on avait vraiment établi un système. Il y avait toujours quelqu'un avec elle. On a vite compris qu'on ne pouvait pas la laisser seule 5 minutes.
Et là, en 2002, votre propre mère, Marie-Josée Poiré, est diagnostiquée Alzheimer. Est-ce que vous en savez plus sur la maladie ou c'est un début de découvrir ou de chercher qu'est-ce qu'on sait sur cette maladie, comment elle évolue, comment on doit communiquer avec la personne, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau?
À ce moment-là, j'en savais un peu plus parce que j'avais évidemment là dans les années 90, il y a eu quand même passablement de reportages qui sont sortis. Bon, avec Internet, on était plus au courant de ce qui se passait. J'avais commencé déjà à m'y intéresser en pensant à ma grand-mère, là, puis à suivre ce qui se publiait. Mais au départ, j'ai eu ce que beaucoup de familles, membres de famille ont, c'est-à-dire que avoir les premiers symptômes, parce que la maladie d'Alzheimer, comme d'autres démences apparentées, d'autres maladies cognitives, les symptômes sont subtils parfois. Ça vient pas d'un seul coup, puis on parle souvent de la mémoire comme étant le principal symptôme, mais c'est pas ça. Je veux dire, je l'ai déjà dit dans une autre entrevue que j'ai donnée, la maladie d'Alzheimer, pour moi, c'est plus une maladie de la relation ou des relations. Les gens perdent leur capacité d'établir des relations.
C'est extrêmement important ce que vous dites là, Marie-Josée Poirier, parce que effectivement plusieurs personnes se disent « Ah, j'ai oublié mes clés, j'ai oublié telle, telle chose » et pensent que c'est la maladie d'Alzheimer. Ah, c'est effectivement, vous avez raison, c'est les, il y a des changements dans les relations, il y a des changements dans les perceptions et il y a des changements dans le jugement de la personne.
Oui, les personnes qui sont atteintes ne sont pas, il y en a qui vont avoir évidemment des problèmes de mémoire, mais c'est la capacité d'établir des relations, par exemple, entre un objet, son usage, la fonction, même les personnes. Je veux dire, c'est là que j'ai compris à quel point acheter des cadeaux de Noël était une entreprise compliquée.
Ah, racontez-nous ça. Non, c'est important, ça peut nous aider.
Ma mère avait toujours été une femme pour qui l'achat des cadeaux était un moment précieux, important. Elle y accordait beaucoup d'importance, faire plaisir à la personne, la surprendre, la chercher. Mais un jour, je pense que c'est dans la deuxième, au début de, c'est au tout début là quand elle a fait son diagnostic. On arrive début décembre, puis là, je dis à ma mère, qui avait encore à ce moment-là le droit de conduire. Le médecin lui avait encore autorisé, l'avait autorisé à conduire dans à Lévis. Et je dis à maman, bon, tes cadeaux de Noël, comment ça va? Silence. Et là, je reviens. Puis là, une petite voix, j'ai rien fait. Là, j'ai fait, oh, OK, t'as rien fait. Là, je savais déjà qu'elle était atteinte. Et là, je me suis mis à parler avec elle, à essayer de comprendre pourquoi elle avait rien fait. Et j'ai compris que, on n'y pense pas, on est habitué d'acheter des cadeaux. Bon, mais d'une part, il faut se souvenir de la personne. Est-ce que je lui ai déjà offert des cadeaux? Qu'est-ce que cette personne-là aime? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Je veux dire, on ne se rend pas compte de la série d'opérations liées à l'achat d'un cadeau. Et là, bon, ben, je veux dire, j'ai dit, bon, pour pouvoir la mettre à l'aise dans ça, on s'est assis, j'ai dit, OK, à qui veux-tu offrir un cadeau? Faites une liste. Et après ça, on a dit, OK, qu'est-ce que tu veux offrir? Et là, donc, on a décortiqué ça. Qu'est-ce que tu avais offert l'an dernier? Avais-tu offert quelque chose? Qu'est-ce qu'elle est? Bon, vous voyez, là, c'était toute cette série d'opérations-là. C'est là qu'on voit à quel point on ne se rend pas compte, puis on le sait, mais la complexité des apprentissages, de toutes les opérations de la vie quotidienne. Je veux dire, on s'est l'acquis. On a l'impression que tout le monde nage là-dedans comme des poissons dans l'eau. Mais c'est quand on commence à perdre, justement, ces apprentissages un par un, qu'on se rend compte à quel point certaines opérations qu'on pense, on pourrait prendre l'exécution d'une recette de cuisine. Combien de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer perdent la capacité de suivre une recette de cuisine parce que c'est des séquences logiques, il y a des ordres à respecter, elles sont pas capables de s'inscrire là-dedans et donc ça devient très très difficile. Je veux dire, ma mère, elle était encore à la maison à ce moment-là. Et je m'apprêtais justement à partir pour Paris ce jour-là parce qu'elle, je devais partir pour des réunions et il y avait quelqu'un qui venait rester avec elle et j'attendais pour prendre ma douche. Elle était à la maison là, puis j'attendais pour prendre ma douche, puis ça venait pas, fait que je trépignais un peu. J'ai frappé à la porte de la salle de bain, pas de réponse. Je frappe à la porte, je suis rentrée dans la salle de bain et elle était assise sur la toilette, enveloppée dans sa serviette et elle pleurait. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a regardée. Elle a dit, je ne sais plus comment faire. Ma mère a eu. La maladie d'Alzheimer, il y a différents types d'évolution. Il y a des personnes où c'est une évolution un peu comme une pente douce qui descend très, très, très lentement. Mais il y en a d'autres, ça ressemble plus à un escalier où il y a des paliers subis qui se descendent. Et là, ce jour-là, peut-être parce que à cause du stress, parce qu'elle savait que je partais et que quelqu'un qu'elle connaissait pas très bien viendrait rester avec elle, mais ce jour-là, elle avait perdu la compréhension de l'usage de la douche pour se laver. Elle savait qu'il fallait se laver, mais elle ne savait plus comment aller se laver dans la douche. Fait que c'est toutes ces relations-là.
Marie-Josée Poirier, dans votre manière de communiquer, prenons toujours l'exemple de votre mère, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez changé?
Ça a tout changé.
Parce que c'est un élément important de changer la manière de communiquer, la manière de recevoir aussi l'autre qui ne sait plus comment faire, qui ne fait pas les bons liens, ceux qu'il faisait avant. C'est-à-dire les liens qu'il faisait avant.
C'est la chose la plus difficile pour un enfant par rapport à son parent. Puis probablement, c'est la même chose pour... J'ai eu l'occasion de causer pas mal avec des conjoints ou des conjointes dont le conjoint ou la conjointe est atteint. Et c'est la même chose, changer sa façon de communiquer. Te communiquer pendant toute ta vie avec des personnes proches. Parfois, la communication n'a pas été facile. Bon, mais au moins, vous avez réussi. Mais là, tout à coup, la ligne est coupée, là. Et donc, il faut essayer de rétablir un autre type de ligne. Et il ne faut pas prendre pour acquis non plus que parce qu'on a rétabli un autre type de ligne une fois, que ça va fonctionner une autre fois. Et donc, d'une fois à l'autre, on est toujours dans l'insécurité. Il y a parfois, je veux dire, on peut avoir les sociétés d'Alzheimer ou les CLSC organisent des formations pour les proches aidants. Ils nous donnent des trucs, puis tout ça. C'est bien. Mais quand on est dans le feu de l'action et de la communication, c'est pas toujours évident. Et parfois, il y a des situations complètement inattendues qui nous désinstallent. Moi, j'en ai vécu une avec maman où là, j'ai perdu tous mes moyens et j'ai vraiment mal réagi. Ma mère avait décidé cette journée-là qu'elle allait chercher sa propre mère. Elle a pris le chien, elle a mis la laisse à Oreo et elle est partie à pied avec Oreo pour aller voir
le nom du chien.
Le nom du chien.
C'est le chien Oreo.
Oui, elle est partie avec Oreo pour aller voir sa mère. Mais sa mère, évidemment, était décédée depuis 13 ans. Et en tout cas, ça a été une histoire. Elle a fini par être réescortée à la maison par la police. Bon.
C'est des choses qui arrivent.
Oui. Mais quand j'ai essayé de lui... j'ai complètement dérapé dans l'explication et dans la manière de rétablir les choses parce que j'en perdais mes moyens.
La question d'aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée Poiré. Elle nous parle de toute son expérience à la fois familiale et bientôt en résidence comme proche aidante. Donc Marie-Josée, vous êtes aussi bénévole auprès des personnes qui vivent dans des résidences, qu'on accompagne, jusqu'au bout, j'espère, les personnes qui ont besoin de vivre dans un espace sécuritaire, dans un espace de confiance, dans un milieu de vie. Les défis de leur maladie et aussi pour les familles. Donc, parlez-nous de votre bénévolat auprès de ces personnes.
Quand maman est rentrée en hébergement en 2004, j'ai pris le temps d'apprivoiser le milieu. Je pense que c'est important pour tous les proches là, de prendre ce temps d'apprivoiser le milieu. Je veux dire, on est un peu là quand on rentre avec un proche en hébergement, on rentre un peu comme dans un autre monde. Là. Il y a toute la terminologie. On apprend qu'il faut qu'il y ait des rencontres régulières pour faire des plans d'intervention. En tout cas, tout ça là, ça fait partie du réseau. Mais on apprend aussi que dans ces milieux-là, vous l'avez très justement dit, ce sont aussi des milieux de vie. Des milieux de vie vraiment d'une vie particulière, assez exceptionnelle. D'abord, ils se créent des liens et des relations entre les résidents et les résidentes. Ils se créent des liens et des relations, par exemple, de nous, les proches, avec d'autres résidents que nos proches. Il se crée des relations aussi assez exceptionnelles entre les membres du personnel et les résidents, et entre les membres du personnel et les proches. Donc, ça devient vraiment comme un univers. Moi, on a entendu beaucoup d'histoires. En fait, quand on entend parler de CHSLD en général, c'est surtout pour nous parler des histoires d'horreur. Bon, c'est sûr qu'il y a des difficultés. On en a entendu au moment de la pandémie. On a vu qu'il y avait tout tournait pas rond dans les CHSLD. Puis on savait déjà. Mais en même temps, je pense que c'est important de dire à quel point il se vit des choses exceptionnelles en termes de relations. Je veux dire, ma mère qui avait dit pendant des années, après le décès de mon père, je ne veux plus avoir de chum, j'ai été heureuse la première fois. Ben, c'est fait un chum dans sa première, quelques mois après être rendu en hébergement. Ils se promenaient main dans la main, dans le CHSLD et ils ont même partagé de manière tout à fait innocente une chambre lors d'un camp de vacances en tenant chacun leur toutou dans leurs bras.
C'est cute.
C'était vraiment adorable. Mais aussi, j'ai vu à quel point les membres du personnel était investi auprès des résidents et des résidentes. Je veux dire, j'ai été toujours émue À chaque fois qu'une personne de mon... Bon, c'est arrivé parce que ma grand-mère est décédée en CHSLD, ma tante est décédée en CHSLD, ma mère est décédée, tout au même CHSLD. Donc, et à chaque fois, de voir le personnel, quand ils finissaient leur chiffre, venir saluer la personne parce qu'ils savaient que le lendemain, elle serait plus là parce qu'elle serait décédée. Ils venaient prendre un moment de silence au pied du lit. Il n'y avait rien qu'ils obligeaient à faire ça, mais c'est très émouvant. Voir la délicatesse et la tendresse avec lesquelles ils les entourent. Quand ils sont en fin de vie, comment ils peuvent les aider. Je veux dire, ils vivent vraiment des choses au plan humain, au plan de la présence assez exceptionnelle.
Et vous avez un exemple de Noël. Une belle histoire de Noël. Même si on n'est pas dans ce temps-là.
Non, mais...
Mais ça vaut la peine de le raconter.
Ben, mon premier Noël, avec maman au centre d'hébergement, j'étais allée faire un petit tour après le souper, avant les festivités plus familiales, parce qu'on avait décidé qu'on l'amenait pas... On amenait le souper le lendemain, mais on avait décidé qu'on l'amenait pas pendant la nuit, là, parce que c'était trop fatigant pour elle. Puis, bon, déjà, elle avait besoin d'un rythme plus régulier. Et j'étais allée la voir, puis j'étais restée avec elle jusqu'après son coucher. Puis j'avais parlé avec sa voix. À ce moment-là, il était deux dans la chambre. J'avais parlé avec d'autres résidents, résidentes. Puis quand j'ai eu fermé la porte du centre d'hébergement, qui était à ce moment-là à l'intérieur de l'hôtel-dieu de Lévis, et que je descendais les escaliers, tout à coup, j'ai arrêté. Et j'ai eu une espèce de d'illumination. Je sais pas si c'est vraiment une illumination je me suis dit, mais les personnes que je viens de voir, là, c'est elles qui sont les bergers de la crèche. Les plus pauvres, là, à qui la bonne nouvelle est annoncée, c'est eux aujourd'hui. Et c'est cette impression-là, c'était Noël 2004 et j'ai vécu, je ne sais pas combien, parce que je continue aujourd'hui encore d'aller pour les messes de minuit qui sont souvent célébrées une semaine avant au CHSLD et j'ai toujours encore ce sentiment-là très fort que c'est à eux et à elles que la bonne nouvelle que l'ange annonce aux bergers, c'est à eux et à elles qu'elle est annoncée aujourd'hui.
C'est magnifique. Marie-Josée Poiré, comment on fait pour durer dans l'engagement et qu'est-ce que ça a changé ou dans votre foi? Est-ce que votre foi a été mise à l'épreuve? Est-ce qu'elle a été renouvelée, consolidée? Et comment on fait pour durer dans un engagement? Comme ça fait des années, donc, que j'entends que vous êtes engagée avec dans une résidence.
Bon, d'abord... dans le cas de ma mère, la maladie d'Alzheimer a été sur la longue durée. Puis ça a duré 10 ans en hébergement. Puis c'est pas la seule. J'ai une amie dont le père a été atteint pendant 17 ans. Fait que déjà là, on apprend la durée. On apprend l'accompagnement patient et lent. Il y a des moments où on a envie de crier parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que ça dure. C'est très difficile. Moi, les moments les plus difficiles que j'ai vécu, c'est dans la période où ma mère était consciente de sa maladie, où elle me disait « j'ai des trous dans ma tête ». Elle verbalisait comme ça le fait, puis le gérontopsychiatre qui l'accompagnait disait « c'est exactement ça, elle a des trous dans sa tête ». Elle le verbalise très bien. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut être fâché, là, on peut être... puis c'est difficile parce que parfois, ils nous rentrent dedans, parfois, ils sont en colère, parfois, bon, il y a plein...
Ils pleurent, il y a toutes sortes d'attitudes qu'on ne s'attendait pas de notre parent, qu'on voit arriver.
Puis en fonction des zones du cerveau qui sont touchées, parfois, voilà. Ça peut être de la violence, ça peut être... Bon, mais moi, si j'y reste, même après le décès, 11 ans après le décès de ma mère, si j'y reste, c'est parce que le contact régulier, à la fois avec les personnes en hébergement et avec les personnes qui travaillent avec elles, je pense aux membres du personnel et d'autres membres de famille, ça m'enracine d'une part dans l'aujourd'hui, dans cette expérience de vivre aujourd'hui. Parce qu'avec les personnes atteintes d'Alzheimer, là, le demain n'a plus d'importance. L'hier, souvent, ils s'en souviennent plus. Fait que d'être présente avec eux et avec elles aujourd'hui. J'avais écrit dans les cahiers de spiritualité ignatienne en 2010 un article avec deux amis, collègues, un qui est décédé aujourd'hui, le père Guy Lapointe et Marek Desmet. Nous avions écrit un article dont le titre était « Recherche, présence réelle, l'expérience des proches aidants ». Moi, je pense que cet article-là cette expérience m'a fait comprendre le sens de ce qu'était la présence réelle.
magnifique.
Et même au plan eucharistique, là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avec les personnes atteintes d'Alzheimer, on n'est plus dans le discours rationnel, on est dans le fait de les accompagner par notre présence, alors que souvent, eux et elles sont absents. Et c'est là-dessus, je crois, que il y a quelque chose de mystérieux qui s'établit. Je veux dire, quand tu prends la main d'une personne atteinte d'Alzheimer, puis qu'elle te regarde, puis qu'elle te rit, quand tu fais avec elle une activité aussi banale que de jouer au bingo ou d'écouter de la musique, il se passe quelque chose.
Marie-Josée Poiré, qu'est-ce que vous avez comme conseil à des gens qui découvrent que peut-être qu'un de leurs parents ou leur conjointe ou quelqu'un de leur famille ou leurs proches commence à avoir des signes? Qu'est-ce que vous conseillez?
Ne restez pas seul. Première chose, ne restez pas seul. Il existe aujourd'hui des ressources pour les personnes proches aidantes qui ont des ressources comme l'appui pour les proches aidants. Dans beaucoup de municipalités au niveau des MRC, il existe des regroupements pour soutenir les proches aidants. Les CLSC et les CIS et les CIUS offrent souvent des formations, des accompagnements. Si votre proche est déjà en hébergement, il y a peut-être un travailleur ou une travailleuse sociale qui est au centre d'hébergement et qui va accompagner. Nous, au centre d'hébergement, on en a une qui fait un travail extraordinaire d'accompagnement des familles. Ne restez pas seul. Et c'est facile à dire parce que je sais à quel point, mais essayez de vous ménager, on le dit souvent pour les personnes proches aidantes, essayez de vous ménager du temps et de l'espace pour vous. Parce que, on veut donner. Les sentiments qu'on vit sont complexes. Il y a de la fatigue, il y a de l'énervement, il y a de l'inquiétude, il y a parfois de la culpabilité. Mais on va pouvoir leur donner dans la mesure aussi où nous, on va pouvoir être nourris. Et donc, ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, parce que, on est plusieurs. Moi, je me mets dans l'eau, là, à avoir parfois le complexe du sauveur. Ben, c'est pas ça, là, qu'il faut se mettre dans la perspective d'accompagner au long cours. Puis, ayez du plaisir avec eux.
Marie-Josée Poiré, merci beaucoup pour un témoignage très terrain. À la fois d'une femme très engagée, d'une croyante, d'une femme qui est vraiment présente. Et je pense que vous nous avez aidé à mieux saisir l'aujourd'hui dont on parle beaucoup dans l'Évangile, mais aussi comment être cette présence réelle. Et l'autre aussi, notre parent, notre conjoint ou quelqu'un de notre proche qui est atteint de démence a aussi une forme de présence, même si quelquefois ça peut être déroutant. Merci beaucoup, Marie-Josée Poiré.
Merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci d'avoir été avec nous au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.